France Culture, il est 18h01. Dans quelques instants, du grain à moudre. Avant cela, le journal de la rédaction présenté par vous, Thomas Cluzel. Bonsoir.
Bonsoir Antoine Genton, bonsoir à toutes et à tous. En Espagne, un homme a été abattu ce matin après avoir attaqué un commissariat dans la banlieue de Barcelone. Une attaque traitée comme un acte de terrorisme par la police régionale. Pierre Chaperon nous appellera de Madrid. En Afghanistan, les talibans mènent depuis plusieurs semaines une série d'offensives. Des centaines de personnes ont été tuées dans ces combats. Hier soir, le président afghan leur avait offert d'observer une trêve de 3 mois. Une offre refusée par les insurgés qui ont promis de poursuivre leurs attaques. Explication dans le journal de Mathieu Laurent. C'est une illustration du dilemme auquel est aujourd'hui confronté le secteur de la tech. Pour accéder à des marchés lucratifs, Google projetait de développer un moteur de recherche compatible avec la censure chinoise. Finalement, et devant la colère de ses employés, le géant américain devrait renoncer, nous dira Laura Dulieu. Enfin, la justice française s'époumonne à essayer de démêler le scandale des moteurs diesel truqués de Volkswagen. L'Allemagne semble bien décidée à tout faire pour protéger l'un des fleurons de son économie, analyse dans le journal d'Hakim Kasmi. Un an presque jour pour jour après avoir été frappé par 2 attentats sanglants, voilà la Catalogne rattrapée aujourd'hui par la peur du terrorisme. Il était un peu moins de 6h du matin ce lundi lorsqu'un homme est entré dans un commissariat de la région avant de crier Allah et de se précipiter couteau à la main sur une policière. L'agresseur a finalement été abattu. Son visage, son âge, son identité sont déjà partout à la une des journaux. Quant au premier témoignage des voisins, il souligne comme souvent la stupéfaction générale face au comportement d'un homme décrit comme plutôt discret, éduqué, gentil, qui disait toujours bonjour et vous tenait même la porte pour vous laisser passer. Quoi qu'il en soit, dans cette région de Catalogne, donc souvent qualifiée de foyer du djihadisme en Espagne, l'enquête doit à présent chercher à déterminer les réelles motivations de l'assaillant. C'est une correspondance depuis Madrid signée Pierre Chaperon.
La scène se déroule dans un commissariat de Cornellà de Llobregat, à une 10 kilomètres au sud de Barcelone. Il est un peu moins de 6h du matin quand un homme fait irruption dans ce bâtiment de la banlieue de la capitale catalane. Armé d'un grand couteau, il tente d'agresser une des fonctionnaires présentes à cette heure-là. La policière utilise son arme et l'abat. L'affaire est traitée comme un acte terroriste, puisque selon les Mossos d'Esquadra en charge de l'enquête, l'auteur présumé a mentionné pendant son attaque « Allah » et d'autres expressions qui n'ont pas encore été identifiées. La police régionale ne confirme pas pour le moment son identité. S'agit-il d'un homme d'origine algérienne d'une 30aine d'années et sans antécédent pénal, comme l'annonce la presse en Espagne, diffusant son portrait? La suite de l'enquête devrait le dire. Des papiers d'identité et une carte de résident étranger en Espagne sont en train d'être analysés. Un appartement situé à quelques mètres du commissariat est perquisitionné. Quoi qu'il en soit, alors que la Catalogne a vécu il y a un an des attentats à Barcelone et Cambrils, la sécurité a été renforcée autour des commissariats.
La missive a été adressée ce lundi au peuple de Dieu. Dans cette lettre diffusée par le Vatican, le pape François condamne avec force les atrocités commises en Pennsylvanie sur plus de 1000 enfants par des centaines de prêtres prédateurs couverts par l'Église catholique pendant des décennies. Alors ce n'est pas la première fois que le pape François réagit ainsi face au fléau de la pédophilie. En revanche, c'est la première fois qu'un pape s'adresse à tous les catholiques pour parler des abus sexuels. Rendre le monde meilleur, voilà un adage bien connu, notamment dans la Silicon Valley et en particulier de la part d'un certain Google, le géant de l'Internet qui s'est même autoproclamé champion de l'information librement accessible dans le monde, rien de moins. Et pour faire montre de sa bonne foi, la firme américaine avait décidé, face à la censure, de retirer son moteur de recherche en Chine, c'était en 2010. Sauf que des informations ont récemment rapporté que la compagnie travaillait sur le développement d'une nouvelle version de son moteur de recherche, adaptée cette fois-ci aux exigences de censure de Pékin. Laura Dulieu, bonsoir.
Bonsoir.
Ce projet baptisé Dragonfly a rapidement suscité la polémique au sein du groupe, de sorte que l'hypothétique retour de Google en Chine ne serait plus a priori d'actualité.
Oui, et pourtant la Chine représente un marché non négligeable pour Google. 772 millions d'internautes, c'est 2,5 fois plus qu'aux États-Unis. Mais malgré la tentation financière, il y a aussi une question d'image pour Google. Comme nous l'explique François-Bernard Huyghe, il est directeur de recherche à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques.
Google vit sur son image de politiquement correct, de force au service du progrès, etc. Et d'autre part, on peut penser que les dirigeants de Google, comme Serge Brin, sont sincèrement convaincus de de ses idées.
Le dirigeant de Google a essayé de temporiser. Nous ne sommes pas proches d'un lancement d'un moteur de recherche en Chine. Il n'empêche que le géant d'Internet étudie clairement la question. Et selon François-Bernard Huyghe, c'est la Chine qui sortira victorieuse face à Google.
Ils ont pris le problème très en amont. L'Internet chinois est quasiment isolés, ils avaient très bien compris qu'il fallait conserver leurs données en Chine, avoir des logiciels chinois, des plateformes chinoises et ne pas dépendre de l'étranger. Ils tiennent depuis plusieurs années et peut-être qu'ils tiendront quelques années encore.
Ce retour n'est donc visiblement pas pour tout de suite. Beaucoup de salariés espèrent faire plier leurs dirigeants. Plusieurs centaines d'entre eux ont signé une lettre de protestation dans laquelle ils demandent plus de transparence sur ce projet.
Merci Laura Dulieu. Des larmes, des cris, mais aussi des rires. Ce lundi, 89 Sud-Coréens ont été autorisés à franchir la frontière pour se rendre en Corée du Nord. Ils font partie de la poignée d'heureux élus choisis par loterie et à qui les autorités ont permis de revoir les membres nord-coréens de leur famille dont ils sont séparés et sans nouvelles depuis la guerre de Corée, c'était il y a 70 ans. Alors des réunions familiales officielles de ce genre ont déjà eu lieu par le passé, mais celles d'aujourd'hui sont les premières depuis 3 ans et c'est bien évidemment la détente entre les deux Corées entamée en début d'année qui a permis leur organisation. Des rencontres très attendues donc, très surveillées également et qui ont donné lieu à des retrouvailles poignantes comme en témoigne la correspondance à Séoul de Frédéric Ojardias de RFI pour France Culture.
Ce sont des retrouvailles baignées de larmes, comme celle de Lee Kum-sum, 92 ans, qui embrasse et refuse de lâcher son fils nord-coréen âgé de 71 ans. La dernière fois qu'elle l'avait vu, il n'avait que 4 ans, elle était sans nouvelles de lui depuis. Han Shin-ja, 99 ans, a elle retrouvé ses deux filles, laissées au nord au début de la guerre. D'autres ont rencontré pour la première fois un frère, un neveu, un cousin. Certains ont amené de vieilles photos ou des papiers d'identité pour tenter de reconstituer leur arbre généalogique. Ces retrouvailles se déroulent dans la salle de réception d'un hôtel en Corée du Nord. Aucune intimité, les familles sont entourées de plusieurs caméras de télévision sud-coréenne. À part le déjeuner demain, toutes les autres rencontres prévues jusqu'au retour au sud mercredi auront lieu en public. La Corée du Nord interdit ensuite tout échange de lettres ou de coups de fil. Pyongyang veut en effet limiter au maximum les interactions entre ses ressortissants et les Sud-Coréens, des interactions vues comme une menace pour la stabilité de son régime. Si le Nord a accepté d'organiser ces retrouvailles, c'est pour montrer sa bonne volonté à l'égard de Séoul, sur fond de détente entamée en début d'année, mais le régime attend en échange à long terme des concessions. Il devrait donc continuer d'organiser au compte-gouttes ces réunions alors que 57 000 Sud-Coréens attendent désespérément de revoir une dernière fois leurs proches vivant de l'autre côté de la frontière.
Après 17 années de guerre, l'Afghanistan attendait aujourd'hui la réponse des talibans à une offre de cessez-le-feu de 3 mois faite hier soir par son président Ashraf Ghani. Et selon l'agence Reuters, les insurgés auraient a priori refusé la main tendue du gouvernement. Mathieu Laurent, bonsoir.
Bonsoir Thomas et bonsoir à tous.
L'information demande encore à être confirmée. Quoi qu'il en soit, l'offre du président afghan intervient dans un contexte bien particulier, à l'occasion notamment du début de la fête musulmane du sacrifice et puis surtout alors que le centre nord du pays a été ces derniers jours le théâtre d'intenses combats.
10 jours d'une rare violence avec entre autres une offensive talibane de 6 jours sur la ville de Ghazni au sud-ouest de la capitale. Les troupes gouvernementales ont eu le plus grand mal à repousser les assaillants, près de 500 morts, jusqu'à 150 civils tués selon les dernières estimations. Un événement, Thomas vous l'avez dit, un temps fort religieux aurait pu faciliter les choses. La Russie, les États-Unis, l'ONU et l'OTAN ont aussitôt soutenu la démarche en début de journée comme pour semer le trouble. Les talibans fait savoir qu'il libérerait des prisonniers ennemis. Quelques heures plus tard, il capturait les passagers de 3 bus dans la province de Kunduz. De hauts responsables talibans s'étaient rendus à Doha en juillet dernier pour y échanger avec des représentants américains. Ils choisissent aujourd'hui d'accroître leur pression militaire sur une administration fragile. Nous avons joint à cet égard Haroun Mir, analyste politique à Kaboul. Tendez l'oreille, la ligne n'est pas très bonne.
C'est pas parce que les talibans sont puissants. En fait, c'est le gouvernement qui a affaibli énormément. Le gouvernement d'unité nationale n'a pas pu saisir l'occasion quand les talibans ont eu des problèmes internes. Parce que les talibans, en fait, n'ont pas eu accès à des armes qui peuvent changer, en fait, la guerre en Afghanistan. Ils sont toujours les mêmes, mais c'est l'affaiblissement du gouvernement, la corruption, la malgouvernance, le problème ethnique. En fait, malgré que nous avons le soutien de l'OTAN, nous avons des ressources financières énormes, à peu près 6 milliards de dollars par an. Et malgré tout, le gouvernement n'a pas pu se défendre contre des forces des talibans qui n'ont pas des moyens, des ressources énormes. Ce n'est pas comparable à ce que le gouvernement afghan a.
Et pourtant, ils contrôlent l'agenda politique. Loin des villes, les talibans qui imposent règles de vie strictes tout en assurant la sécurité des habitants sont même perçus comme un recours à la section afghane de l'organisation État islamique. Un sérieux revers pour Kaboul.
Merci Mathieu Laurent. Et puisque vous évoquiez à l'instant l'organisation État islamique, j'ajoute que Daesh a revendiqué aujourd'hui une série d'attaques ayant fait plusieurs blessés dans les rangs de la police en Tchétchénie où la rébellion séparatiste a prêté allégeance à l'organisation État islamique. La chose était entendue, mais elle est désormais officielle. Total tire un trait sur le plus grand projet gazier du monde suite aux menaces de Washington visant les entreprises étrangères qui continueraient de commercer avec Téhéran. Le géant pétrolier français a quitté l'Iran, se désengageant du même coup de tous ses projets d'investissement représentant plusieurs milliards de dollars. Mais c'est surtout pour Téhéran que ce départ sonne comme un véritable coup dur. C'est une correspondance de Sievosh Ghazi.
Le départ du groupe français Total constitue un coup dur pour le gouvernement iranien qui comptait sur le retour des sociétés étrangères après l'accord nucléaire de 2015 pour relancer l'économie du pays. Depuis le retrait des États-Unis de l'accord nucléaire en mai dernier et le retour des sanctions américaines contre l'Iran, de nombreuses sociétés occidentales ont déjà quitté le pays. La compagnie Total, à la tête d'un consortium avec le groupe chinois CNPC et un groupe iranien, avait signé en 2017 un accord d'un montant de 5 milliards de dollars pour le développement de la phase 11 du champ gazier de Pars du Sud. Le président de Total avait expliqué ces derniers mois qu'il ne pouvait pas rester en Iran à cause des menaces de sanctions agitées par les États-Unis. Normalement, le groupe chinois CNPC doit remplacer Total à la tête du consortium, mais la compagnie chinoise n'a rien annoncé pour l'instant. Les autorités iraniennes, qui ont mené d'intenses négociations avec les pays européens pour contrer les menaces américaines, ne cachent pas leur déception. Il y a quelques jours, le chef de la diplomatie iranienne a critiqué à demi-mot les responsables européens en affirmant que de simples déclarations n'étaient pas suffisantes et qu'ils devaient prendre des mesures concrètes contre les sanctions américaines afin de sauver l'accord nucléaire.
La Grèce est-elle vraiment tirée d'affaire aujourd'hui? S'est achevé le programme de crédit accordé à Athènes depuis 2010. Pour la première fois depuis 8 ans, le pays pourra donc se financer à nouveau seul sur les marchés. Reste que si les données économiques se sont améliorées, un actif sur 5 reste toujours au chômage en Grèce. Quant à la dette publique du pays, elle s'élève à 180% du PIB, soit la plus lourde de la zone euro. Le scandale des moteurs diesel truqués, le fameux Dieselgate, a éclaté il y a 3 ans déjà, c'était en septembre 2015, et depuis, des enquêtes sont toujours en cours en Allemagne contre plusieurs des cadres de Volkswagen, mais aussi de ses marques Audi et Porsche. Hakim Kasmi, bonsoir.
Bonsoir Thomas.
Alors en parallèle du travail mené donc par les autorités judiciaires allemandes, en France aussi, les juges ont été saisis d'une enquête pour tromperie aggravée. Sauf que l'enquête française, elle, patine, ralentie par le manque de coopération de la justice outre-Rhin qui refuse tout simplement de transmettre ces éléments aux enquêteurs français. Pour quelle raison?
Eh bien, parce que le parquet allemand justifie sa décision en expliquant que la diffusion d'informations et leurs homologues français risquerait de perturber l'avancée de l'investigation des juges allemands. Rappelons que c'est la 3e fois que la justice allemande refuse de répondre favorablement à la justice française dans cette enquête. Car l'affaire des moteurs truqués de Volkswagen pour réussir les tests anti-pollution n'a pas épargné l'Hexagone où de nombreux clients se sont constitués partie civile. En France, 3 autres constructeurs sont visés par une enquête similaire, les Français Renault, PSA ainsi que le groupe américano-italien Fiat Chrysler. Pour autant, la lutte contre la pollution des moteurs diesel mais aussi essence est encore loin d'être gagnée car au-delà du groupe allemand Volkswagen fort de ses 12 marques, face aux nouvelles normes anti-pollution imposé par Bruxelles à partir de 2020, pas plus de 14 grammes de CO2 par kilomètre, les constructeurs sont encore loin d'avoir trouvé la solution. En particulier les Allemands, notamment leur marque Premium, très gourmande en carburant avec leur grosse cylindrée. La solution passera donc inévitablement par l'électrification des moteurs, un virage qu'ont bien pris des marques comme Toyota ou encore le groupe Renault-Nissan, pionnier en la matière, mais pas forcément les Allemands comme Volkswagen, Toyota et Audi, qui certes y sont mis, mais ont pris bien plus de temps avant d'y croire.
Merci Hakim Kasmi. On termine avec un mot rapide du temps pour demain. Très nuageux près de la Manche et estival partout ailleurs. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Demergue. Le prochain journal de la rédaction, ce sera à 22h avec Camille Magnard.